des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Le temps difficile en 6 émissions d'en faire le tour. Voyons voir, 6 fois 30 minutes, 3 heures, est-ce assez de temps pour cerner le temps et ses méandres? Certes non. Et pourtant, dans cette dernière émission sur le temps, nous allons tâcher de conclure. Conclure le temps, peut-on passer à côté de la question de la mort et de la mort à celle de l'éternité? Des mots que tout cela qui manque cruellement de réalité tant qu'on n'en a pas fait l'expérience dans notre chair et notre esprit. Des mots, justement, et c'est avec le langage que j'aimerais débuter notre émission. Dans le film de science-fiction Premier Contact, film signé Denis Villeneuve, le temps est présenté comme une conséquence du langage. Les temps, passé, présent, futur, structurent notre langage et donc notre pensée. Ainsi, maîtriser la langue de cette civilisation extraterrestre qui visite la Terre serait aussi maîtriser le temps et lire l'avenir.
Aujourd'hui, ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager?
8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
Maman, qu'est-ce qui va se passer?
Je sais pas.
D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde.
Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant?
Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible.
Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent.
Prêt? Ouais, ça va bien se passer.
C'est quoi maintenant?
Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Pareil pour cette dernière émission spatio-temporelle sur le temps, cette dernière expérience.
Oui, j'avais, en la commençant, j'avais d'ailleurs assez envie de me dire que, je sais pas trop quoi, j'avais envie de parler plus lentement. Je sais pas trop pourquoi.
Eh ben, essayons, ça doit pas être simple, parler lentement.
Non.
Le passé, le présent, l'avenir, ces trois temps de notre conjugaison, de notre langage, sont effectivement l'ossature de notre pensée, impossible de s'en défaire. C'est pourtant ce à quoi nous invitent les spiritualités du monde entier. Les prophètes ne sont-ils pas des gens qui maîtrisent le temps et voient l'avenir, par exemple?
En ce moment, on parle beaucoup de la Chine. Et je me souviens du livre de Perfit qui devait s'appeler « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », qui a dû être écrit il y a peut-être 50 ans, je ne sais plus exactement. Donc on peut penser en tout cas que cette idée-là, en tout cas, était une idée prophétique, c'est-à-dire d'une capacité non pas à avoir une relation directe avec l'avenir à partir de rien, mais au contraire, la capacité à intégrer un certain nombre de données et à en laisser émerger, au fond, un futur possible. Donc je pense que dans ce moment-là, en effet, l'instant que nous vivons, l'instant que vous, auditeurs, vous vivez, peut-être d'ailleurs que vous n'écoutez pas, peut-être que vous rêvez, peut-être que vous êtes en train de d'écouter la radio dans votre cuisine ou en train de repasser ou peut-être en prenant une douche, il y a quelque chose qui nous permet en tout cas de prendre conscience de la partie intime, de la partie impersonnelle, dans la partie personnelle par contre de ce temps. Et à ce moment-là, quand on s'arrête un tout petit peu et qu'on essaye de le percevoir, on en perçoit en quelque sorte quelque chose autour de l'épaisseur, d'un temps qui devient plus vivant, et on sait à ce moment-là que on est en référence à notre histoire et à notre mémoire. Je dis souvent que la mémoire, c'est notre présent intérieur, et que cette mémoire a pour fonction d'anticiper l'avenir. Donc, dans cette présence à soi, dans ce temps suspendu, dans ce temps intime, dans ce temps extrêmement éphémère, mais en même temps qui peut gagner une épaisseur, il y a quelque chose de ces trois temps, c'est-à-dire d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Donc, ce temps-là devient un temps vivant qui porte le passé en le retenant et en l'intégrant, qui ouvre vers un futur, peut-être en l'anticipant, en le prévoyant et surtout en faisant le contenu de notre propre désir, et qui l'actualise dans l'instant là où on est, là où je suis en train de parler avec vous et où je vais vous laisser reprendre la parole.
Eh bien, justement, peut-être que la physique contemporaine, entre autres la relativité restreinte d'Einstein, prévoyait ça avec la théorie de l'univers bloc, où l'univers tout entier se déploie dans un continuum d'espace-temps, où tous les événements présents, passés et futurs existent de la même façon. C'est très théorique. Et c'est quasiment inimaginable pour notre petit cerveau d'humain.
Oui, pour nous, l'écoulement du temps, alors on peut discuter après de savoir si est-ce que vraiment le temps s'écoule. Mais disons, dans le langage courant, on comprend ce que ça veut dire, l'écoulement du temps. Cet écoulement du temps, il est constant. C'est-à-dire, pour vous, une heure et pour moi, une heure, c'est la même chose. Et puis, vous savez, c'est le paradoxe de Langevin, par exemple, qui est décrit par les physiciens. C'est-à-dire, si vous prenez une fusée, que vous allez très, 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 très vite, à 200, ou pas loin, en tout cas, d'une vitesse proche de la lumière, alors le temps va, pour vous, se dérouler d'une certaine manière, alors que si vous vous êtes assis dans votre chaise longue sur la Terre, le temps ne va pas s'écouler de la même manière. On le sait, par exemple, avec les horloges atomiques qui ont une précision de microsecondes, que quand elles tournent autour de la Terre, voilà, à des vitesses qui sont élevées, en fait, elles se dérèglent un tout petit peu. C'est-à-dire, on voit bien que la vitesse, qui n'est pourtant pas une vitesse extrêmement importante, suffit à ce que le temps qu'elles vivent elles-mêmes n'est pas le même que l'horloge qui est en gros restée sur Terre. Alors ça, c'est déjà assez difficile. On peut comprendre qu'il y en ait une qui s'use un peu plus vite que l'autre, qu'il y en ait une qui subisse les radiations, donc qui s'abîme, qu'il y ait des choses comme ça qui se dérèglent. Mais que le temps même, c'est-à-dire que la seconde ne soit pas la même sur Terre et dans un véhicule qui va très très vite, c'est pas représentable.
Cela étant dit, oui. Ça rejoint, me semble-t-il, tout à fait ce que vous disiez sur cette présence au monde, cette présence à soi et au monde que l'on peut avoir, en tout cas, par exemple, qui est au cœur de la pensée zen, que l'on peut avoir et qui fait que les trois temps, passé, présent, futur, se rejoignent en un seul noyau très riche.
Oui, je crois que cette question, dès qu'on s'interroge là-dessus, c'est que suis-je, au fond, dans ce temps, hein ? Alors, nous sommes quand même globalement des êtres qui nous cherchons et qui déployons une présence particulière au monde. La réflexion sur le temps, elle est très très ancienne. Platon parlait du temps comme de l'image immobile, de l'image mobile, pardon, de l'éternité. C'est-à-dire, il y aurait un temps éternel et puis il se déploierait, il se déclinerait, il s'écoulerait, mais au fond, il serait éternel. C'est ce que vous évoquiez à propos de la physique quantique. Aristote, lui, il parle plutôt du temps avec l'expérience que nous vivons tous du changement, c'est-à-dire le temps, c'est le changement. Et puis, je crois que parler du temps, c'est quand même parler d'un début et d'une fin. Hein. C'est l'éternité, comme disait Woody Allen, tout le monde le sait, c'est long, surtout vers la fin, ce qui veut bien dire que l'éternité ne nous est pas représentable.
Pourtant, excusez-moi de vous interrompre, ouais. L'éternité, c'est un concept vieux comme la philosophie.
Oui, c'est un contexte vieux comme la philosophie, ou en tout cas, sûrement depuis les pré-socratiques, probablement dans la pensée indienne, mais j'ai pas assez de compétences. Le rapport au temps est un rapport différent, hein, parce que le temps grec, en gros, est un temps linéaire, alors que le temps oriental est beaucoup plus un temps cyclique. Mais le temps cyclique, c'est difficile aussi de le définir. Donc, cette inscription du temps à l'intérieur de nous-mêmes, il est important parce que la mort est la butée pour nous et que cette butée donne à l'instant que nous vivons sa valeur. Hein, on ne va pas se dire, je ne vais pas vous dire, ben Simon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la deuxième émission dans quelques centaines de millions d'années, parce que ça ne nous parlerait pas. Hein. Déjà, si on se dit qu'on se fait ça dans 10 ans, ça n'est pas quelque chose qui serait tout à fait possible.
Donc, selon vous, la mort serait ce qui donne du poids au temps présent, que l'on ait 3 ans ou 70 ans.
On voit ça déjà, par exemple, chez l'enfant. Hein. L'enfant, il n'a pas conscience de la mort avant 6-8 ans. Hein. Et probablement, enfin moi, je pense un petit peu ça, je ne sais pas si c'est tout à fait validé, mais que quand on dit que l'enfant a 7 ans et qu'il a l'âge de raison, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a une représentation du temps. Et la représentation du temps chez l'enfant, c'est quasi toujours la représentation de la mort. Hein. Le petit enfant qui a 3 ou 4 ans, il voit une petite fourmi, il la prend dans ses doigts, il l'écrase, il la repose, il n'a pas du tout conscience que la mort est un processus naturel, obligatoire et irréversible. Naturel, obligatoire et irréversible, ces trois mots sont importants. Donc, dans le rapport au temps, il y a d'abord l'expérience de la fin du temps, au fond. Hein. C'est-à-dire, je sais que je ne suis pas immortel. Donc, je crois que c'est la mort qui inscrit le temps et qui donne sa valeur aux choses et qui fait que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'y accorde de l'importance. Et j'y accorde de l'importance, ce choix-là a de la valeur, parce que je suis mortel. Voilà,
et malheureusement, dans notre société, la mort, c'est ce qui est mis sous le tapis. On a bien vu dans les maisons de retraite des personnes qui très souvent meurent dans la solitude. Les veillées mortuaires sont terminées depuis longtemps.
Oui, et puis, puisqu'on est dans la période post-confinement, on a bien vu combien le fait qu'il y ait cette épidémie liée à la Covid-19, avec peut-être entre 28 et 30 000 morts, a marqué les esprits. Je rappelle qu'il y a une trentaine d'années, il y a eu la grippe de Hong Kong, qui avait fait, entre le mois de février et le mois de mars, entre 30 et 40 000 morts. Alors vous allez me dire, on ne sait pas très bien combien. Non, parce qu'à l'époque, les statistiques n'étaient pas aussi précises que maintenant. Il y a eu 30 ou 40 000 morts, c'est-à-dire plus que maintenant. Et en gros, quasi personne n'en a parlé. Quoi. Ça n'a pas fait la une des journaux. Voilà, on en parlait en page 6 ou 7 des journaux, et puis c'est tout. Parce que le rapport à la mort n'était pas le même, parce que c'était des gens âgés qui mouraient. Donc on voit bien que notre rapport au temps change, notre rapport à la mort change le rapport au temps. Et dans cette urgence à faire, il y a toujours une urgence à vivre. Sauf que, bien évidemment, si on est tous dans notre partie extravertie, alors on remplit, on évite les temps de mort, c'est-à-dire on met à l'écart la question du mourir. Ce qui fait que très très souvent, en effet, on peut avoir le sentiment d'une immense vacuité de sa propre existence, et ça renvoie finalement probablement en effet à l'essentiel du message du religieux en général, c'est-à-dire à la fois relire et relier, c'est-à-dire relier les espaces de sa propre existence et les relire, c'est-à-dire essayer de leur donner du sens, hein, une perspective de sens.
Le religieux, on en parle, c'est justement le temps de l'âme, l'éternité quelque part, qui revient encore dans notre conversation.
Oui, alors saint Augustin, il a beaucoup travaillé cette question-là. C'est probablement un des premiers grands philosophes, hein, 4e siècle après Jésus-Christ, qui a travaillé cette question du temps. Il parle du présent, il parle du passé, il passe des souvenirs, et il parle du futur, de l'attente, et puis de l'espérance. Alors lui, je rappelle cette différence entre espoir et espérance, où on pourrait dire que l'espoir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'immanence, c'est-à-dire j'espère que je ne vais pas rater mon train, ou j'espère que je vais passer de bonnes vacances, ou j'espère que je vais pouvoir changer de travail. Voilà. Et l'espérance, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre J'ai l'espérance que ma vie aura du sens, ou j'ai l'espérance qu'il y a une vie après la vie, par exemple, quelle que soit cette dimension-là. Donc ces notions, je pense, sont très très importantes. Et voilà, cette dimension du temps qui s'écoule et du sens sont deux notions extrêmement, extrêmement intriquées.
Alors, vous l'avez dit, l'importance du temps présent qui peut réunir le passé et le futur, mais vous êtes bien placé en tant que psychanalyste pour savoir que le passé a néanmoins une importance capitale et qu'il est très important de connaître son histoire, ses racines, pour justement pouvoir vivre le présent et envisager l'avenir.
Oui, l'essentiel d'un travail, souvent en analyse ou dans un travail psychothérapeutique, c'est de revenir sur son histoire. Hein. Il y a ce proverbe, je dis souvent que c'est un proverbe africain, j'en suis pas très très sûr, mais qui dit, et je l'aime beaucoup dans sa simplicité, qui en fait sa puissance, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Hein. Et ça veut bien dire au fond qu'il y a énormément de choses qui dans notre histoire nous déterminent. Hein. Voilà, simplement, probablement à notre naissance ou à la fin de notre enfance, à l'adolescence ou à notre entrée dans la vie adulte, on n'a pas un jeu de cartes infini. Mais après, avec le jeu de cartes que l'on a, on peut choisir de le déployer de telle ou telle façon. Donc c'est souvent important de connaître ce qu'il en est de ses propres racines et de ses propres déterminismes. Cette compréhension, donc dans un vraiment rapport à un temps que du coup on va observer, pétrir, façonner, refaçonner, réécrire et mettre en perspective, est tout à fait essentiel. Je crois d'ailleurs que fondamentalement ce travail, il est pour moi, dans le sens étymologique, il est toujours religieux, hein, vraiment de religarer et religuérer, c'est-à-dire on relit son histoire, puis on comprend que voilà, mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs, mes grands-parents, la société, le village, le destin, les métiers, les engagements et tout ça nous détermine, hein, donc on le relit, du verbe relire, et puis on le relit dans le sens de relier, c'est-à-dire on essaie de se dire, oui, moi, voilà comment je me situe. Je peux arriver à saisir que dans cet écoulement du temps, j'ai eu telle place à tel moment et que j'ai été invité à être celui-là. Alors, pour certains, ça peut être l'enfant prodigue, pour d'autres, ça va être l'enfant génial, pour d'autres, ça va être le vilain petit canard, pour d'autres, ça va être de devenir rapidement le parent de ses parents. Enfin, vous voyez, tous ces destins-là. Et donc, dans ce travail, pour moi, éminemment religieux, il y a la possibilité d'élargir son champ de conscience, c'est-à-dire de gagner de la liberté. C'est pour ça que le passé, ce n'est pas une sorte de quelque chose qui aurait disparu. Hein. C'est vraiment ce présent intérieur. Si c'est une présence. L'avenir, au contraire, on pourrait dire que c'est une non-présence. Mais c'est une présence qui est en train d'émerger. Voilà. Donc dans cette présence, dans cette omniprésence de ma propre histoire et dans cet enfantement de l'avenir, eh bien, il y a le temps qui cadre toute la dynamique et tout le processus.
Alors justement, en tant que psychanalyste, comment envisagez-vous l'avenir avec un patient? Comment ça se construit? Est-ce que vous voyez justement se construire?
Alors, à partir de ce travail de religarer et religarer, justement, moi, personnellement, je n'ai jamais aucun projet sur les gens. Je suis très attentif, en fait, à ce qui va émerger, hein, c'est-à-dire de ses propriétés émergentes. Alors, Edgar Morin en a parlé beaucoup autour des capacités émergentes au sein de la complexité. Mais surtout, moi, je fais confiance à la dynamique du soi, de l'individu. Et dans cette dynamique, il y a quelque chose de l'essence, je crois, de l'être, qui finit toujours par arriver. Sous forme de rêve, sous forme de pulsion, sous forme de créativité, sous forme de désir, voilà. Donc, ce travail de retissage de sa propre histoire, en fait, sert de nappe phréatique, de bouillon de culture, de terreau, pour que pousse ce qui doit pousser. Mais ça se fait toujours à ma grande surprise, et le plus souvent à la grande surprise de celui qui entreprend un tel travail.
Alors, vous êtes aussi médecin et à cet égard, je voulais vous poser cette question. Finalement, la médecine joue aussi avec le temps en ralentissant simplement l'horloge métabolique de nos cellules. Vous gagnez du temps. Nous avons gagné peut-être 20 ans d'espérance de vie. 20 ans, c'est beaucoup à l'échelle humaine.
Je vais peut-être vous décevoir ou décevoir les spectateurs, les auditeurs plus exactement, mais probablement la contribution de la médecine dans l'augmentation de l'espérance de vie est une contribution qui n'est pas très 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 importante. Je pense qu'en termes de qualité de vie, évidemment, la médecine contribue à beaucoup de choses, hein, parce que elle permet pour les maladies infectieuses qu'elles guérissent plus vite. Elle permet, dans la médecine préventive, que certaines parties de notre corps ne s'usent pas trop vite. Hein, voilà. Je sais pas, il y a 35 ans, chaque week-end, je voyais des œdèmes aigus du poumon, c'est-à-dire en gros une poussée d'insuffisance cardiaque importante. Maintenant, on n'en voit quasi plus, hein, parce qu'on a diminué la pression. Voilà. Mais globalement, c'est plutôt l'alimentation et l'hygiène qui ont énormément contribué à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc je dirais par rapport à votre question, je pense que le lien de la médecine avec le temps est au contraire un lien extrêmement ténu.
Oui, mais en même temps, la grande question de la recherche de l'immortalité grâce à la science est très souvent remise sur le tapis. Et même si ça reste utopique, c'est une idée qui bouleverserait du coup nos 6 émissions sur le temps. Mince alors!
Non, je crois pas du tout à cette possibilité, entre guillemets, transhumaniste. Je n'y crois pas parce que je ne pense pas que la mort s'oppose à la vie. Je pense que la mort s'oppose à la naissance. Hein. Donc, vous voyez, il y a comme une sorte de moment de passage où on devient vivant, parce qu'un jour on naît, un jour on meurt, et qu'il y a probablement une continuité. Où est-ce que j'étais avant que je sois conçu? Et où est-ce que je vais être une fois que je serai mort? Très honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus. J'ai pas, voilà. Mais j'ai l'intime conviction de cette continuité de l'être au fil du temps. La médecine est une médecine de la géographie, hein, de l'organe. Hein, voilà. Donc dans la plomberie, par exemple, ce n'est pas très, très compliqué. Quand il y a une valve qui ne marche pas très, très bien, bah, c'est comme le tuyau, le joint de votre robinet qui est tout calcaire. Vous allez l'enlever, puis vous en mettez un neuf, et puis ça dure un certain temps. Ça n'empêche pas le calcaire de se déposer. C'est une médecine de la géographie, alors que la psychanalyse est une médecine, si je puis dire, de l'histoire, au contraire. Hein, donc ces deux choses s'opposent. Donc, dans cette quête de l'immortalité, par exemple, je ne suis pas sûr que la médecine apporte beaucoup de solutions. Il y a de l'ordre d'un fantasme un peu transhumaniste, mais voilà.
Un fantasme qui est aussi presque mythique sur l'immortalité, le juif errant, des choses comme ça, des êtres immortels. C'est Faust aussi qui achète son immortalité.
Oui, il faut quand même.
Ça se termine souvent mal, c'est ça?
Oui, ça se termine souvent mal. Et puis, on peut se rappeler quand même que dans le premier grand texte philosophique, qui est l'épopée de Gilgamesh, hein, quand même, qui est l'histoire de cette amitié entre Gilgamesh et Enkidu, un jour Gilgamesh voit son ami Enkidu qui meurt, il l'observe, il le garde, et puis un jour, je crois qu'il voit un petit ver qui sort de son nez, c'est insupportable, et il dit, je ne veux pas mourir. Donc, il va chercher, le Noé de l'époque qui s'appelle Utanapishti, et qui est censé être immortel. Utanapishti lui dit non, moi je vais vivre 300 ans, mais je vais mourir comme les autres. Et au fond, il se résout à mourir. Hein. Donc vous voyez, si cette notion de l'immortalité a un millénaire et demi avant interrogé l'humanité, c'est pas pour rien. Je suis pas sûr que depuis 3500 ans, on ait beaucoup avancé sur cette question. Hein. Je pense que le mourir, c'est la condition du vivant, et que je pense que le fait de bien manger, le fait d'avoir une activité physique, ça compte pour rester en bonne santé. Mais ça ne change rien au fait de mourir. Voilà. De toute façon, on meurt. Point. Alors, si on vit relativement bien, on vit bien. Si on fume, si on picole, si on est face à des produits toxiques comme on en voit partout, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais autrement, on est fait pour vivre en gros une centaine d'années.
Docteur Dominique de Michel, pour conclure cette série d'émissions sur le temps, j'aimerais peut-être qu'on revienne au début de cette émission où l'on parlait du langage. On parlait du récit. Qu'en est-il justement de ce temps à l'intérieur du récit qui semble, lui, s'arrêter et puis nous accompagner parfois pour des millénaires ?
Paul Ricoeur, il a appelé ça l'identité narrative, et je trouve que cette idée, elle est vraiment très très importante. Dit de manière simple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand je me raconte, je crée ma propre identité, ou je contribue à cette identité. Donc, il n'y aurait peut-être pas de temps sans récit. Ça rejoint d'une autre manière ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire le temps est structuré par le langage, hein, ou c'est le langage qui fait le temps. Et on sait bien d'ailleurs que dans certaines langues, le passé n'existe pas vraiment, le futur n'existe pas vraiment.
Une expression inversée, comme en hébreu.
Voilà, en hébreu, par exemple.
Le passé est devant nous, parce qu'on le voit, voilà. Et l'avenir est derrière nous.
Voilà, donc c'est compliqué. La structure d'une culture témoigne justement de son rapport à la mort, de son rapport à l'existence. Donc je crois vraiment énormément à cette fonction du récit comme venant inscrire au fond nos identités et nos existences à l'intérieur de, la vie du monde. Hein. Donc voilà, donc j'invite vraiment nos auditeurs à se raconter, j'invite nos auditeurs à aller demander à leurs parents de se raconter, j'invite les auditeurs à aller demander à leurs grands-parents de se raconter. Vas-y, papy, mamie, mémé ou grand-papa, raconte-moi ton histoire. Et vraiment, c'est quelque chose toujours, presque toujours en tout cas, d'extraordinairement fabuleux, même si c'est fait de blessures, de deuil, de drame, de peine, d'abandon, de chagrin. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est le tragique qui fait l'histoire, mais c'est en même temps le tragique qui construit l'histoire si on peut faire de toutes ces blessures une sorte de puissance d'éveil et d'ouverture justement au monde. Et je crois que ce récit est très très important, et puis c'est pas dans une radio où on va dire le contraire, puisque quand même on est là pour parler et écouter.
Et peut-être, pourquoi pas, d'aller voir ou revoir Premier Contact, qui raconte exactement ça, comme quoi le langage peut maîtriser le temps. Merci beaucoup, docteur Dominique Desmichel, pour ces très riches émissions que vous pouvez retrouver dans leur intégralité et dans l'ordre sur notre site internet radiograndciel.fr, rubrique « Des mots pour le dire ». Et je vous dis à très bientôt.
Merci Simon, au revoir à tous. Thank you.